table des gourmands. Jean-Michel.
Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Mathieu Zellweger, photographe passionné de cuisine. Tiens, on n'a pas dit tout à l'heure que vous étiez photographe. Enfin, je ne l'ai pas dit. Et c'est vrai que votre livre consacré au sacré, s'il y a du texte, il y a également des images, des photos. Ça aussi, ça nous permet de voyager. Ça nous permet de découvrir le monde secret du saké avec un livre qui est un projet déjà bien ficelé. Vous attendez encore quelques fois. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais ce livre, il est particulièrement important pour vous aujourd'hui?
Ben oui, c'est un projet sur lequel j'ai commencé à travailler il y a tranquillement 4 ans. Et donc c'est vrai que c'est l'aboutissement d'un long processus. Ça a été au début, plus un projet personnel où je me suis dit, ben tiens, explorons ce monde qui est mal connu, qu'est-ce qui se passe dans une maison de saké, allons voir. Et puis j'ai été très bien reçu et de fil en aiguille, ben c'est vrai que j'ai accumulé passablement de travail à ce sujet. Je me suis dit, ben, je vais en faire quelque chose. Alors j'ai eu l'idée d'en faire un livre, et puis c'est vrai que ça a été une gestation relativement longue.
Une aventure.
Toute une aventure, absolument. qui maintenant, alors elle a reçu un petit coup de pouce au printemps, parce que j'ai reçu deux bourses d'aide à la publication, donc c'est vrai que ça a donné un élan à ce projet. Et maintenant, effectivement, j'essaie de l'amener à son terme.
Alors vous êtes entré dans ces maisons du saké, comment elles sont ces maisons? C'est très humide, le travail n'est pas forcément facile?
Alors, c'est très variable parce que il y a des maisons qui sont anciennes. Je crois que la plus ancienne que j'ai vue, elle a quelque chose comme 200 ans. Et les poutres apparentes et la maison n'a pas bougé depuis 200 ans. C'est magnifique. Hein, c'est une très, très jolie maison. Il y en a qui sont plus modernes. Dans la pratique, comme on fabrique le saké en hiver, c'est toujours une saison où il fait froid. Et comme le froid, c'est une des bonnes façons de contrôler les fermentations, on utilise le froid, y compris à l'intérieur de la maison de saké. Donc, il y a une pièce qui est chauffée, c'est celle où on prépare le tout début de la première fermentation. Mais à part cette pièce qui est chauffée souvent au-delà de 30 degrés et qui est donc très humide, le reste, c'est plutôt l'hiver froid et mordant. Donc, c'est des endroits où effectivement on passe du chaud au froid, du sec à l'humide, et puis après quand ils font cuire le riz pour préparer le saké, ben on en cuit facilement 200-300 kilos d'un coup. Donc c'est vrai qu'au moment où on ouvre la marmite avec 300 kilos de riz qui viennent d'être étuvés, ça fait pas mal de vapeur qui remplit la pièce.
Il y a différents sakés, différentes qualités de saké, ça ne vient pas forcément du riz, mais ça vient surtout du savoir-faire de l'équipe qui va faire cette fermentation de riz.
Exactement, exactement. Alors il y a effectivement différentes qualités de saké. Il y en a qui sont très très finement ciselés à la main. Puis il y a des produits qui sont peut-être plus industriels. Le riz a pas, je dirais, le riz a pas un impact sur le goût du saké de la même façon que le cépage de raisin aurait un impact sur le goût d'un vin. C'est vrai que le goût d'un saké final exprime plutôt le savoir-faire de l'équipe qui l'a fabriqué.
Quel est le saké qui vous a le plus marqué? Est-ce qu'il y a une fois, un jour, une dégustation qui vous a particulièrement séduite?
Alors, il y a une dégustation qui m'a particulièrement parlé, mais c'était une dégustation tout à fait informelle, en fait, dans un restaurant à Tokyo avec un assez vieux monsieur, très très classe, quelqu'un qui avait énormément voyagé, beaucoup travaillé, je dirais, dans des postes assez seniors, quelqu'un de vraiment très classe, très...
Une grande culture,
une très grande envergure aussi, quelqu'un de formidable. Et puis il m'a dit, écoute, moi je vais boire du saké chaud, et toi? Et j'ai dit, moi aussi. Et donc j'ai goûté, et on peut vraiment dire que c'est la première fois que j'ai goûté, que je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment, vraiment bon. Et c'est la première fois, je crois, que j'ai goûté un saké en me disant, ça, c'est vraiment un produit magnifique. Et puis, ben évidemment, il y a des sakés que j'aime, des sakés que j'aime moins. Je dirais, il y a une maison qui n'est pas très loin de Kanazawa, que vous avez mentionné tout à l'heure. Et là, cette maison-là, elle fait des produits que j'aime énormément, parce que voilà, ça correspond au goût de ce que je recherche dans un saké. Alors quand j'en trouve, eh bien j'en achète une bouteille.
Le livre, vous en avez un exemplaire entre les mains. Je disais tout à l'heure, il est quasiment ficelé. Et c'est un petit peu le mot qui convient, hein, parce que c'est vrai que c'est un livre, c'est un objet. Hein, c'est pas seulement un livre papier glacé avec de belles photos. Ça va au-delà de cela. On aura encore l'occasion d'en parler un petit peu. Mais lorsque vous revoyez le livre, vous refaites un petit peu le voyage.
Absolument, absolument. Quand je replonge dans le livre, dans les images ou dans les textes, d'ailleurs. Ça me ramène chaque fois à des moments. J'ai essayé d'écrire les textes pour représenter toujours ce que pourrait penser le personnage qui est sur une image donnée. Alors ça me ramène chaque fois dans cette maison-là, à cette époque-là, ou à cette partie-là du processus de fabrication. Et j'essaye de relier ça à une expérience que j'ai eue quand j'étais sur place.
Un livre qui est traduit en anglais et en japonais.
Exactement, exactement. Donc moi je l'ai écrit à l'origine en français, et puis il a été traduit de main de maître, voire quelqu'un d'autre que moi, en anglais, puis en japonais.